Chapitre 3. Ce départ surprit M. des Tournelles au dernier point. Il consterna Berthe. On ne connaissait pas d'affaires à M. d'Aubrive, et son billet laconique ne donnait aucun éclaircissement sur la nature de celle qui lui faisait quitter Grandval si précipitamment. Il fallait cependant qu'il fût d'une importance extrême pour l'avoir décidé à partir sans faire ses adieux aux hôtes de la Marelle. Berthe n'était pas d'un caractère à chercher des consolations dans les épanchements. Elle renferma en elle la douleur qu'elle éprouvait et put tromper tout le monde, son père excepté. Il suffisait à M. des Tournelles de voir un certain pli qu'elle avait à l'angle interne du sourcil quand une préoccupation la dominait pour comprendre ce qui se passait en elle. Un départ l'aurait toujours attristé, mais dans les circonstances où il s'était produit, Berthe ne se dissimulait pas qu'il remettait tout en question. L'édifice était écroulé avant qu'elle en eût assis les fondements. L'illusion n'avait point de prise sur cette nature éternellement occupée à se creuser elle-même, à s'assouplir, à se maîtriser. Et quelque chose dont elle n'était pas maîtresse lui criait que Francis était perdu pour elle. À cette époque, le sentiment nouveau que la présence de M. d'Aubrive avait fait naître dans son cœur avait achevé l'œuvre de résistance et de concentration auquel elle se livrait sur elle-même depuis le jour où Mme des Tournelles lui avait parlé à son lit de mort. Il n'y avait plus ni révolte, ni colère, ni emportement subit suivi de longues prostrations. Elle était unie et paisible, patiente et reposée. Tout mourait en elle. On ne voyait plus d'autres traces des bouillonnements qui l'agitaient qu'un peu de pâleur sur le front ou le gonflement des narines. On avait parlé deux ou trois fois du départ de M. d'Aubrive dans les réunions du soir. Berthe, le front penché sur son ouvrage de tapisserie, écoutait de toutes ses oreilles. Si dans ces moments-là quelqu'un avait mis la main sur son cœur, on eût été épouvanté des terribles pulsations qui le faisaient battre. Ces courtes conversations pendant lesquelles des propriétaires voisins ou des compagnons de chasse échangeaient leurs commentaires ne lui apprenaient rien. En jouant sa partie de whist, le vieux notaire, qu'elle exécrait, mêlait son mot à l'entretien. « Oh, monsieur d'Aubrive a la prétention de mettre ordre à ses affaires, disait-il, et c'est à moi qu'il réserve le soin de nettoyer les écuries d'Augias. » J'imagine qu'il va le rappel des notes et des mémoires. » On riait autour de M. Le Cerf et vers la fin de la semaine, on ne pensa plus à Francis. Un jour qu'elle se promenait dans le parc avec son père, Berthe lui mit la main sur le bras. « Vous ne savez rien ?» dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de raffermir. « Rien encore, » répondit le père, qui la comprenait à demi-mot. « Mais je n'augure rien de bon de ce voyage. J'ai écrit à Paris, M. d'Aubrive se montre au bois de Boulogne, on l'a vu à l'opéra. Il ne paraît pas qu'il fasse autre chose que ce qu'il a toujours fait. Si sa fameuse tante était morte, il nous l'aurait écrit. « C'est ce que je pense, » reprit Berthe. Il y avait dans ces quelques mots, prononcés d'une voix sourde, un tel accent de tristesse. Le visage de Berthe était si blanc, le pli de son sourcil si profond, que M. des Tournelles en eut pitié. « Quelques affaires à terminer me retiennent encore ici, dit-il, mais dans un peu de jours, nous partirons pour Paris. » Berthe appuya la tête sur l'épaule de son père et se mit à pleurer silencieusement. C'étaient les premières larmes qu'elle eut versées depuis la mort de sa mère. Son cœur, trop violemment comprimé, se dégonflait. Quand l'accès fut calmé, elle prit la main de M. des Tournelles et la porta à ses lèvres sans parler. « Dès notre arrivée là-bas, reprit M. des Tournelles, j'irai aux informations. S'il ne s'agit que de dettes à régler, compte sur moi. » Ton bonheur passera avant ma propre inclination, mais si je juge que M. d'Aubrive n'est pas l'homme à qui ma conscience me permet de confier sans crainte l'avenir de ma fille, Tu ne m'en parleras plus. Je vous le promets, dit Berthe. Elle s'essuya les yeux, ils entrèrent à la Marelle sans échanger un autre mot. Sur le seuil, les yeux du père et de la fille se rencontrèrent, ils s'embrassèrent. Ah, pauvre qui dort, que de tempête dans ton silence, murmura M. des Tournelles. Pendant les derniers jours qu'on passa au château, Berthe fut semblable à une statue de marbre. Un seul objet occupait sa pensée et tous ses efforts ne parvenaient pas à lui faire concevoir une espérance. Elle avait causé avec M. des Tournelles une fois, c'était tout ce qu'elle avait pu faire. Maintenant, elle était résolue à se taire et à attendre. La fierté de son cœur était offensée de la rapidité de ce départ inexpliqué. Mais combien vite elle aurait pardonné à M. d'Aubervilliers s'il eût reparu devant elle. Aussitôt qu'elle pouvait s'échapper, elle montait dans sa chambre, où se cachait au plus épais du parc. L'hiver arrivait à grands pas, les feuilles mortes pleuvaient autour d'elle. Les branches sèches, secouées par le vent, se froissaient avec de longues plaintes. Le brouillard s'élevait des vallées et rampait dans la campagne. Et elle restait à la fenêtre ou assise au pied d'un arbre, insensible au froid, les yeux fixes, occupée à rouler entre ses doigts ruban de soie bleue. On ne voyait plus une goutte de sang sur ses joues. Lucile allait, venait, riait, chantait, faisait aux visiteurs les honneurs du château, ne voyait rien, taquinait Berthe amicalement et lui tapant sur l'épaule en riant lui criait. Décidément, tu dors trop, Loki dort. On revint à Paris dans les premiers jours de janvier. Il y avait alors plus d'un mois qu'on avait eu de nouvelles de M. d'Aubrive. Ce double mariage auquel M. Le Cerf avait fait allusion la veille du départ de Francis avait le sort de ces mariages que d'irrésistibles passions ou de grands intérêts ne commandent pas. Il en était toujours vaguement question, mais il n'avançait guère. M. des Tournelles avait dès longtemps conçu le projet de marier ses deux filles le même jour, pour n'avoir pas, disait-il, l'embarras et le chagrin de deux cérémonies et de deux séparations. Or, si le mariage de Lucile, qui avait remis sur cette grave affaire la plus importante de la vie d'une femme, tous ses pouvoirs à son père, pouvait être conclu dans les 24 heures, celui de Berthe présentait d'autres difficultés. En traversant Paris, Berthe n'avait pu s'empêcher de jeter 1000 regards curieux le long des rues. Il lui semblait impossible que M. d'Aubrive ne se trouvât point sur son passage. Comment ne devinait-il pas qu'elle arrivait? De retour dans le vieil hôtel de la rue Miroménil, elle revit les grandes pièces où autrefois elle avait dansé avec lui. Il la recherchait alors, et mille souvenirs que son retour lui rappelait, comme le pas d'un voyageur réveille un essaim d'oiseau endormi dans une haie, lui donnait à penser qu'à cette époque, il la préférait à toutes les jeunes filles réunies dans les mêmes salons. Et comment cela faisait-il qu'elle ne l'eût pas remarqué alors, et qu'il eût fallu les caquets de la province et les méchancetés d'un notaire pour l'attirer de sa torpeur? Une sorte de fièvre s'empara d'elle. Son père ne lui avait jamais manqué de parole et certainement un temps bien long ne s'écoulerait pas avant qu'on ne vît M. d'Aubrive à l'hôtel. Déjà, quand sa sœur demandait si personne était venu leur rendre visite, son cœur battait. Elle n'osait pas jeter les yeux sur les cartes qu'on leur remettait au retour d'une promenade. Une semaine s'écoula. Berthe n'interrogeait pas M. des Tournelles. Elle savait qu'il n'oubliait rien, il suffisait qu'ils se fussent expliqués. Un soir, il pria les deux sœurs de s'habiller pour aller aux Italiens. C'était la première fois qu'elles y retournaient depuis que leur mère n'était plus. Berthe sentit ce qui devait se passer dans le cœur de son père. un de ces élans qui le rendait irrésistible la jeta dans ses bras. Si vous voulez, nous n'irons pas, dit-elle. Lucille et moi, nous n'y tenons plus. Monsieur des Tournelles la serra sur son cœur. Il est de mon devoir de ne vous priver en rien des plaisirs de votre âge. Nous parlerons d'elle ensemble au retour, répondit-il. Monsieur des Tournelles et ses deux filles occupaient la loge qu'ils avaient toujours eue. On jouait la calzaladra. L'influence de la musique, déjà si profonde sur les organisations nerveuses, devient excessive lorsqu'elle agite au milieu de circonstances spéciales. Berthe écoutait sans respirer. Les malheurs de Ninette avaient un écho dans son âme. Elle regardait derrière elle cette quatrième place demeurée vide. Elle la peuplait en esprit. Mais ce rêve ne desserrait pas son cœur. Il fallait toute la force qu'elle avait acquise sur elle-même pour qu'elle se retînt de pleurer. La représentation terminée, M. des Tournelles descendit, tenant Lucille par le bras. Berthe marchait près de sa sœur. Comme elles étaient debout sur les dernières marches de l'escalier, attendant qu'on vînt les chercher pour les conduire à leur voiture, Berthe fut saisie d'un frisson qui les branla de la tête aux pieds. Monsieur d'Auberive descendait, donnant le bras à une femme magnifiquement habillée. Francis aperçut Berthe et Monsieur des Tournelles. Il rougit, baissa la tête et pressa le pas. Sa compagne, étonnée, promena autour d'elle ses grands yeux noirs et les arrêta sur Berthe hardiment. Elle était sur la même marche que Mademoiselle des Tournelles. En se voyant si près de cet inconnu et presque frôlée par les flots de dentelle qui ondulaient sur ses pieds, Berthe, par un mouvement instinctif, ramena autour d'elle, pour n'en être pas effleurée, les pans de sa chaste robe blanche. Ses genoux tremblaient. La pensée qu'un malheur irréparable venait de la frapper traversa son esprit. Monsieur d'Aubrive disparut, sans oser tourner la tête de son côté. Berthe s'assit dans la voiture plus morte que vive. Elle avait regardé son père à la dérobée. L'expression de son visage lui avait fait peur. On ne dit rien pendant la route. Seule Lucille essaya de parler, on ne lui répondit pas. Elle se tut, et Berthe regarda par la portière la pluie qui tombait à flots. Elle passa toute la nuit à pleurer. Pourquoi? On ne le savait pas, et cependant rien ne calmait ses longs sanglots. Quelque chose venait de se briser dans sa vie dont elle n'avait pas conscience. Lorsque, lasse de pleurer, elle fermait les yeux, elle voyait le regard superbe de cet inconnu dardé sur elle et pareil à une lame de feu. Mais qui était-elle et pourquoi au bras de Francis? Berthe sentait bien qu'il l'avait vue. Et si donc il ne l'avait pas saluée? C'est que tout était fini. Le matin la surprit dans ses angoisses. L'épuisement ne l'en pouvait pas distraire. Après le déjeuner, son père l'attira dans son cabinet, ferma la porte et lui prit la main. Un nuage passa devant les yeux de Berthe. « Mon enfant, lui dit Monsieur des Tournelles, demain je te présenterai Monsieur Félix Claveron. Il a 30 ans et j'ai la ferme conviction qu'il est digne de toi. » Berthe devint livide et de la main qu'elle avait libre s'appuya contre la cheminée. La poitrine de Monsieur des Tournelles se souleva. « On ne me parle plus de l'autre, reprit-il avec effort. Aussi vrai que je t'aime, rien n'est plus possible à présent. » Sa fille ouvrit ses lèvres blanches pour parler. « Tu sais ce que tu m'as promis, » poursuivit Monsieur des Tournelles en l'interrompant. « L'épreuve est faite. Maintenant, si ta parole ne suffit pas, je t'en prie au nom de ta mère. » « C'est bien, » dit Berthe. Elle embrassa son père, monta lentement chez elle, la main sur la rampe de l'escalier, et tomba comme morte sur son lit. Elle avait les yeux secs et brûlants, la gorge aride du feu dans la poitrine. Elle aurait voulu crier et ne pouvait articuler aucun son. Elle resta comme anéantie jusqu'à l'heure du dîner. Alors elle se leva brisée et souffrant jusque dans les os. Mais qu'avait donc fait M. d'Aubrive? Elle descendit et s'assit à table où elle s'efforça de manger et de paraître calme. Cette résignation bouleversa M. des Tournelles. À la fin du repas, et comme Lucile chantait, il prit Berthe dans ses bras. « C'est ma conscience qui m'a fait parler, dit-il. Me pardonnes-tu? J'ai bien pardonné à M. d'Aubrive, dit Berthe. Es-tu bien décidé à présent? Reprit son père. Après le premier coup, je voulais vous demander de m'accorder 2 ou 3 jours pour me donner le temps de me remettre. Oh, c'est inutile. Je recevrai M. Félix Claveron quand vous voudrez. Demain alors, demain. » Cet homme de fer avait dans ce moment des entrailles de mer. Il maudissait Francis pour tout le mal qu'il faisait à sa fille et aurait de grand cœur versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour rendre à Berthe le sourire et le repos. Mais son inflexible raison et la rigidité de ses principes lui faisaient une loi d'étouffer le cri de sa pitié. Par caractère, il était en doute de ces hommes qui portent le fer rouge dans la plaie et ne lui laissent pas le temps de saigner. Sa résolution prise et la rupture inévitable, il avait cru plus humain d'arracher violemment Berthe à sa douleur par une secousse brutale que de lui permettre de s'y ensevelir pour arriver ensuite par de lentes transitions à un dénouement semblable. Il préférait la hache qui coupe d'un seul coup à la scie qui déchire. Monsieur d'Aubrive perdu, il avait fait surgir Monsieur Félix Claveron. On sait dans quelles circonstances Monsieur d'Aubrive avait quitté la Bourgogne. Un grand découragement s'était emparé de lui. Il n'accusait personne et regrettait seulement d'avoir rencontré une jeune fille qui devait appartenir à un autre lorsque le seul lui avait fait comprendre que le mariage pouvait être une chose bonne et désirable. Rentré dans Paris et au milieu de ceux qu'il appelait ses amis, il avait fait comme une pierre ronde posée sur le penchant d'une colline. Il avait suivi la pente. Un peu par désœuvrement, un peu par habitude, un peu pour oublier, il était redevenu l'homme des anciens jours. Seulement, il ne trouvait plus aucun plaisir aux choses qui lui semblaient le plus délectables autrefois. Au bout de 3 ou 4 semaines, le dégoût l'avait pris. Des nausées lui venaient aux lèvres au milieu des soupers insipides où l'on disait les mêmes sottises en buvant les mêmes vins. Une fois, en revenant le long du boulevard après une dernière séance au café anglais, il jura d'en finir avec cette vie ridicule et vide. La soirée fatale qu'il passa aux Italiens était un adieu à sa jeunesse fatiguée, au plaisir qui n'avait plus de sève. La vie de Berthe lui donna une secousse dont sa compagne du dernier jour s'aperçut. Qu'il maudit cette faiblesse qui lui avait fait retarder d'une heure le complet abandon de son passé. Et si le chagrin de Francis ne fut ni si profond ni si douloureux que celui qui déchirait Berthe, il eut du moins pour résultat de le fortifier dans la résolution qu'il avait prise. Il réunit en toute hâte les paperasses qui pouvaient établir nettement sa situation et les expédia à M. Le Cerf. La lettre qu'il reçut du vieux notaire en réponse à la sienne avait un post-scriptum. « S'il vous souvient de ce que je vous ai dit lors de notre dernière rencontre, vous reconnaîtrez prochainement que je ne m'étais pas trompé dans mes prévisions. » D'autres ont été plus avisés qu'un certain chasseur dont je veux taire le nom. Les 2 demoiselles des Tournelles vont se marier. Monsieur d'Auberive laissa tomber son front dans sa main. Les yeux fixés sur la lettre, il repassa en idée cette pastorale qu'il avait ébauchée à la campagne et qu'il avait pointue de dénouement. « C'était écrit, murmura-t-il, en appelant à son aide cette résignation sardonique, cette philosophie moqueuse à laquelle il demandait ses inspirations. Cependant, M. Félix Claveron avait été présenté à l'hôtel de la rue Miroménil. C'était un homme qui avait de l'aisance dans les manières et dans la parole, un mouvement, une facilité qui pouvait tromper de plus intelligent que lui. Il avait à un haut degré l'art de vulgariser et de présenter par leur côté les plus séduisants les idées qu'on lui avait suggérées. Aussitôt qu'il s'en faisait l'apôtre, elles devenaient siennes et il les défendait avec feu. Cette faculté lui donnait un grand relief dans les salons. Avec les dehors et les formules d'une modestie exagérée, peu d'hommes avaient une plus haute dose de vanité. À première vue, il pouvait éblouir les esprits inattentifs. Au fond d'un cabinet, dans la pratique, il étonnait par sa nullité. Il avait une façon de tenir son chapeau et de porter sa tête dans le monde qui imposait au vulgaire et sur les lèvres un nombre respectable d'aphorismes tout faits qui, dès les premières hostilités d'une discussion, produisait une vive impression sur un auditoire mondain. M. Félix Claveron avait eu quelque fortune en naissant. Une association heureuse l'avait enrichi. Le hasard avait voulu qu'il eût pour condisciple et pour camarade en entrant dans la vie, plus tard pour ami, un certain Jules Després, qui était franc-comtois et qui avait les plus étonnantes qualités d'ordre, d'économie, de persévérance et d'activité. Il était en tout cas ce que n'était pas Félix, mais embarrassé, timide, pesant et maladroit causeur, il était à côté de Félix comme un vil caillou auprès d'un saphir. Par cette loi des contraires qui fait des miracles, Jules aimait Félix. Il était l'âme de leur association et lui en laissait tous les avantages extérieurs. Jules inventait, Jules dirigeait, Jules travaillait, Félix triomphait. Le moyen de penser que l'homme qui parlait si bien en si bons termes n'eut pas d'intelligence. Félix en était convaincu tout le premier. L'ambition était venue avec le succès. Le théâtre d'une sous-préfecture ne lui paraissait plus suffisant pour ses rares mérites, et déjà il tournait ses visées vers Paris, lorsque ses fiançailles avec Mademoiselle Berthe des Tournelles le déterminèrent à y fonder une maison de banque. Quand Jules Després en fut informé, il essaya de détourner son ami d'un projet où il ne voyait que des périls positifs et des avantages incertains. Félix le remercia de ses bons conseils en termes si polis que Jules Després n'insista plus. « Tu as tort, lui dit-il seulement le jour où ils rompirent leur association. « Nous verrons bien, répliqua Félix d'un air superbe. Admis officiellement chez M. des Tournelles, Félix Claveron fit la roue autour de Berthe. Elle ne le regarda seulement pas. Quand son père l'interrogea pour avoir son consentement, elle répondit d'une voix tranquille qu'elle était prête à le suivre à la mairie et à l'église. Cette impassibilité produisit un certain effet sur l'esprit du maître de forge. Il eut comme un remords d'avoir pressé Berthe avec tant d'ardeur. « Remarque bien que tu es libre, dit-il. Si M. Claveron ne te plaît pas, je n'ai pas engagé ma parole. » « Oh, engagez-la, mon père, répondit Berthe, lui ou un autre, peu importe. » Le jour où la parole de M. des Tournelles fut donnée, Félix baisa la main de Berthe. Elle ferma les yeux à demi et crut un instant qu'elle allait s'évanouir. Elle voyait devant elle l'image de M. d'Auberive. M. Claveron interpréta cette émotion tout à son avantage. Il se redressa d'un air doux et vainqueur. « Croyez, mademoiselle, dit-il, que le lien qui va nous unir sera pour moi une occasion éternelle et désirée de me dévouer tout à vous. » Berthe s'inclina. Un des mots de cet engagement banal avait fait passer des flammes devant ses yeux. « Ah, pauvre ruban bleu, » pensa-t-elle, « toi aussi tu étais un lien. » Monsieur Félix Claveron se montra homme de goût et magnifique dans le choix et le nombre des objets dont il remplit la corbeille de mariage. Chaque jour, un bouquet splendide était apporté à Berthe. Chaque matin aussi, elle flairait un petit bouquet de violettes desséchées qu'elle tirait d'une cassette. Son fiancé passait 2 ou 3 heures avec elle, dînait à l'hôtel, et l'accompagnait ensuite au bois de Boulogne ou au théâtre. Elle lui donnait une poignée de main, se montrait polie, réservée, un peu contenue et froide, mais semblait l'écouter volontiers. Monsieur Claveron pensait qu'il l'éblouissait. Monsieur des Tournelles, qui ne s'y trompait pas, l'a pris d'un jour à part. Ta mère ne m'aimait pas, tu sais, quand je l'ai épousée, lui dit-il. Un jour, tu aimeras Félix. Bon, je lui serai dévouée, tout au moins, répondit-elle. À cette même époque, le mariage de Lucille était décidé avec un gentilhomme de province qui avait tué une paire de sangliers dans les forêts de M. des Tournelles. M. Gaston de Sauveloche passait chaque année 6 mois à la campagne et 6 mois à Paris. Il vivait largement et honnêtement, faisait quelques biens quand l'occasion s'en présentait, et n'avait pas d'autre prétention que celle de jouer le piquet mieux que personne et de tirer aussi bien que le plus fin braconnier de son département. Il avait une santé indestructible, 40 000 francs de rente en bien-fonds, la tournure d'un capitaine de dragon en disponibilité, le cœur sur la main et l'humeur accommodante en toute saison, par la pluie ou par le vent. À la seule condition qu'on ne dérangeât pas dans ses habitudes, il était homme à vivre 50 ans au milieu d'un couvent de nonnes ou d'une réunion d'avocats, sans avoir maille à partir avec personne. Si Lucille avait le caractère fait comme une pomme d'api, frais et rond, celui de Gaston était pareil à une balle de caoutchouc, souple et rebondissant. Les deux mariages se firent le même jour. Une brillante compagnie assisait à la bénédiction nuptiale. Lucille s'y montra heureuse et souriante. Berthe pria sous son voile avec une ferveur dont son père seul avait le secret. Après un déjeuner qui suivit la cérémonie, M. et Mme Sauveloche partirent pour le midi. Berthe, que son mari voulait emmener en Suisse, refusa et préféra passer 1 mois à la campagne. Une lettre d'invitation était parvenue à Francis en même temps que la nouvelle de la mort de sa tante. À l'encontre de toutes les prévisions, sa tante lui avait laissé, non pas la totalité, mais une part de sa fortune assez considérable pour qu'il lui fût aisé de rembourser les hypothèques prises sur la terre de Grandval et de nettoyer sa position. Monsieur Le Cerf, qui avait charge de ce soin, s'en acquitta promptement, étonné de la probité excessive de Francis, qui tint à payer dans leur intégrité des emprunts notoirement entachés d'usure. « Mais c'est de la probité paradoxale, » disait le notaire, qui voulait, à l'aide d'un bon procès, faire réduire de moitié le chiffre de certaines créances. Sa liquidation achevée, M. d'Aubrive restait maître d'une somme ronde. M. Le Cerf ne la lui remit pas sans de vives appréhensions qu'il n'eut garde de lui cacher. « À votre tour, mais prêtez donc sur vos premières hypothèques, » lui disait-il. « C'est aussi amusant que des sottises et ça rapporte. » La première pensée de M. d'Aubry avait été de partir pour un long voyage. Mais il se souvint de la promesse qu'il avait faite à Mlle des Tournelles et plaça ses fonds dans une compagnie industrielle qui en échange le nomma à un emploi de secrétaire général. J'ai perdu la femme, disait-il, le travail me reste. Pff, essayons 11 ans. 2 ans après le mariage de Lucille et de Berthe, monsieur et madame de Sauvelage habitaient du 1er décembre au 1er juin le rez-de-chaussée d'un bel hôtel situé Grande Rue Verte. Monsieur et madame Claveron n'avaient pas quitté l'hôtel de la rue Miromesnil et vivaient avec monsieur Détournelles. Berthe en avait fait la seule condition de son consentement. Les bureaux de monsieur Claveron étaient rue Basse du Rempart. En été, Lucille partait pour la terre de Sauveloche, où son père et sa sœur passaient 6 semaines ou 2 mois. À son tour, en automne, elle les rejoignait à la Marelle, où Gaston tirait des chevreuils et des sangliers, après avoir tué des perdreaux et des lièvres au bord de l'Allier. Pendant l'hiver, les deux sœurs se voyaient tous les jours, chose rare à Paris, et dînaient fréquemment l'une chez l'autre. Berthe avait une fille et Lucille un fils. Le plus habile observateur n'aurait pas découvert l'ombre d'un nuage dans les deux ménages. Une personne qui n'aurait pas vu Berthe depuis l'âge de 16 ans ne l'aurait pas reconnue. Elle était extraordinairement répandue dans le monde, très brillante, très fêtée, et l'une des femmes qui semblait se plaire le plus dans le mouvement et le bruit de Paris. Sa maison était ouverte à la meilleure société, et on se serait fatigué à compter le nombre de visites qu'elle recevait dans une semaine. Vers la fin du carnaval, et dans le carême surtout, qui est la saison où l'on s'amuse le plus à Paris, elle allait presque chaque soir dans 2 ou 3 bals où elle ne manquait ni valse ni mazurka. Seule sa sœur tenait tête à madame Claveron. Mais de ce côté-là, Lucie n'avait point changé. Gaie, heureuse, évaporée, bonne, prête à tout, elle traversait la vie comme un oiseau, le feuillage d'un arbre en fleurs. Le théâtre l'amusait, comme le bal, le concert comme le théâtre, la campagne comme le concert, le voyage comme la campagne. C'était à croire qu'une bonne fée l'avait touchée de sa baguette au berceau. Étonnée de cette faculté prodigieuse de se plaire également partout, avec les inconnus comme avec les personnes qu'elle aimait, Berthe demandait parfois à Lucille de chercher en esprit un endroit, une situation, où elle aurait pu ne pas être heureuse. Lucille cherchait consciencieusement. « Ben, je n'en vois pas, disait-elle. » Dans ces occasions, Lucille prenait le menton de la questionneuse. « Mais toi-même, disait-elle à son tour, il me semble que tu ne t'ennuies pas beaucoup. » Berthe embrassait Lucille et ne répondait pas. Les deux maris adoraient leur femme, non pas qu'ils fussent très prodigues de témoignages extérieurs de tendresse. La finance, pas plus que la chasse et le piquet, ne comportant de ces étalages de sentiments, mais Gaston et Félix se trouvaient éternellement bons, ce que Lucille et Berthe souhaitaient, et ne les chicanaient jamais sur leurs dépenses. Bien plus, on avait vu M. de Sauvelanche refuser 3 battues au loup pour rester auprès de Lucille, qui gardait le lit, et M. Félix Claveron manquait une réunion d'actionnaires où il avait un discours à prononcer pour passer la soirée auprès de sa femme, prise tout à coup d'un accès de fièvre. L'influence de Berthe sur son mari était extrême et rappelait celle que sa mère avait eue sur M. Détournelles, mais elle ne s'en servait pas davantage. C'était l'influence d'un esprit concentré sur une âme vaniteuse qui se livre. L'un accordait d'autant plus que l'autre rendait moins. Au bout de la 3e année, M. Détournelles, qui n'avait surpris ni plainte, ni soupir, ni regret, et qui, vivant entre son gendre et sa fille, les voyait toujours unis et prompts à de mutuelles concessions, respira comme un homme dont la conscience est enfin soulagée d'un grand poids. « Eh bien, n'avais-je pas raison, dit-il un jour à Berthe, es-tu convaincu qu'on peut ne pas aimer son mari en l'épousant et n'être pas moins heureuse avec lui ?» « Certainement, répondit Berthe, qui achevait de s'habiller pour aller au bal. Il attira sa fille auprès de lui et l'embrassa sur le front, comme pour la remercier du bonheur qu'elle goûtait. Une femme de chambre entra et remit à Berthe un écrin qu'on venait d'apporter pour elle. Monsieur Clavron, retenu dans un conseil d'affaires, lui envoyait ce souvenir pour se consoler de n'être pas auprès de sa femme. Le père sourit. Te rappelles-tu cette journée où je te disais que si jamais quelqu'un t'aimait, ce quelqu'un t'aimerait bien, dit-il. Félix ne fait pas mentir ma prophétie. Félix, ah, c'est vrai, répondit Berthe avec une expression singulière. Elle détourna la tête en attachant à ses poignets et à son cou les bijoux qui étaient dans l'écrin. Sa poitrine se gonfla sous le scintillement des pierreries et une larme parut entre ses cils. Une nuit, en dansant au ministère des Finances, elle apprit le prochain mariage de M. d'Aubrive, qu'elle n'avait pas revu depuis la soirée des Italiens. Elle changea de couleur. Au bout d'un quart d'heure, Félix, qui venait de quitter une table de whist, s'approcha d'elle. Qu'avez-vous? Lui dit-il, étonné de sa pâleur. Oh, on étouffe ici, répondit-elle. Il lui prit le bras vivement et l'emmena. En arrivant dans sa chambre, elle tomba évanouie. Monsieur Claveron, qui ne l'avait jamais vue dans un pareil état, fut effrayé. On réveilla Monsieur des Tournelles en toute hâte, mais déjà Berthe revenait à elle. Elle réprima un tremblement nerveux qui l'avait saisie en ouvrant les yeux. Non, non, ne vous effrayez pas, dit-elle, la chaleur m'a suffoqué. Monsieur Claveron était fort ému, mais la crise passée, il éprouva le besoin de faire un peu de morale. Dieu m'est témoin que je ne voudrais pas vous contrarier, reprit-il en se posant devant la fenêtre cheminée, mais peut-être dansez-vous trop. Oui, peut-être, répliqua Berthe. À quelque temps de là, M. des Tournelles reçut un billet de faire-part qui lui annonçait le mariage de M. Francis d'Aubrive avec Mlle Julie de Maupla. Un doute lui traversa l'esprit. Il se souvint du bal et de l'accident qui l'avait suivi. Une heure après, étant seul avec sa fille et la regardant bien en face, il lui demanda si ce jour-là elle avait eu connaissance du mariage de leur ancien ami. Non, répondit Berthe tranquillement. Monsieur des Tournelles l'embrassa avec un sentiment de reconnaissance. Monsieur des Tournelles mourut bientôt après, avec la parfaite conviction que Berthe était heureuse, ne regrettait rien et ne souhaitait rien. Il s'endormit en paix, la remerciant de la tendresse et du bonheur dont elle avait entouré ses derniers jours. Berthe se retira à La Marelle pour y passer la plus longue partie de son deuil. Elle devait en revenir au bout de 3 mois. Elle y était encore à la fin de l'année. Une sorte d'abattement profond s'était emparé d'elle. Elle ne se plaignait pas, elle ne souffrait pas, disait-elle, mais elle dépérissait lentement. À la voir silencieuse, pâle, amaigrie, se traînant à petits pas le long des sentiers, on l'aurait prise pour un exilé pleurant sa patrie. La présence de ses enfants, car alors elle en avait deux, la faisait sourire, mais elle ne leur animait pas. Elle assistait à leurs jeux, les embrassait, les couvrait d'une tendresse vigilante, mais retombait en partie dans cette nostalgie inexplicable devant laquelle la science restait impuissante. Elle avait la langueur d'un jeune arbre demi déraciné. Monsieur Félix Claveron interrogea Lucile pour savoir si Berthe n'avait pas quelque motif secret de chagrin. Lucile répondit qu'elle ne lui en connaissait point et s'établit auprès de sa sœur. Elle aime les enfants, disait-elle, je lui amènerai les miens. Avec ce qu'elle a, ça fera 4. Nous ferons tant de bruit qu'il faudra bien que l'eau qui dort se réveille, fût-ce pour une tempête. Mais le temps n'était plus où l'eau qui dort avait de ces réveils terribles. Elle était alors comme une eau profonde qui garde tout ce qu'on lui confie et dont la surface immobile n'est troublée par aucun bruit. Elle accueillit sa sœur avec tous les témoignages d'une amitié que la tristesse n'avait pas attiédie, mais on ne vit pas d'amélioration dans son état général. On aurait dit que le ressort de sa vie était brisé. On ne douta plus que la mort de son père, avec qui elle avait si étroitement vécu, n'en fut la première cause. Lucille, qui ne se tourmentait guère, fut inquiète cette fois. On consulta les médecins les plus fameux. Berthe, qui se prêtait à tout ce qu'on voulait d'elle, écouta l'un comme elle avait écouté l'autre. Le résultat de ces consultations répétées coup sur coup fut que Madame Claveron était atteinte d'une maladie nerveuse. Me recommanda les distractions et les bains de mer. Eh mon Dieu! S'écria le mari avec un élan qui n'était pas fin. Qu'elle achète des chevaux, qu'elle donne des bals, qu'elle dépouille 10 magasins d'étoffes et de bijoux. Ben, je lui serai reconnaissant de me ruiner si elle guérit. Il fut décidé qu'on partirait pour Dieppe. Allons à Dieppe, dit Berthe, qui serait partie avec la même indifférence pour l'Australie ou le Kamchatka. Il y avait alors plus d'un an que M. des Tournelles était mort. Berthe arriva à Dieppe en compagnie de sa sœur. M. de Sauvelage devait les joindre et passer 15 jours avec elle avant de partir pour l'Écosse, où il comptait chasser les grouses. M. Claveron le remplacerait alors auprès de ces dames. La première personne que Berthe rencontra sur la plage, ce fut M. d'Aubrive. Tout son sang ne fit qu'un tour. Sa sœur, qui la sentait trembler à son bras et qui n'avait rien remarqué, lui demanda ce qu'elle avait. Berthe répondit qu'elle avait vu un enfant renversé par une vague et que cela l'avait effrayée. « Es-tu nerveuse ?» dit Lucille. Madame Claveron ramena son voile sur son visage. Le soir, elle eut un peu de fièvre et elle avait la peau brûlante. « Ah, tant mieux !» dit Lucille, « au moins on sait ce que tu as. » À 2 jours de là, Madame de Sauveloche parla à Berthe de M. d'Aubrive qu'elle avait aperçu devant le casino. « Ta femme n'est pas jolie, » ajouta-t-elle. « Et il a l'air triste, » reprit Berthe. Lucille, étonnée, demanda où elle l'avait rencontré. « Oh, je marchais à quelques pas derrière toi, » poursuivit-elle. « Il m'a reconnue et m'a saluée. » Cet air de tristesse qu'on voyait chez Francis avait en effet frappé Berthe. Elle en éprouva comme une secousse qui la tira de son engourdissement. « Oh, il n'est pas heureux, » pensa-t-elle. Il est bien difficile de savoir si le bonheur de Francis lui réjouit, mais son chagrin lui alla droit au cœur. Elle en fut affligée, mais lui en fut reconnaissante. Alors, avec toute l'habileté d'un profond politique et toute l'ardeur d'un sauvage marchant sur une piste, elle chercha à entrer dans l'intimité de Madame d'Aubrive. Elle lui rendit de ces petits services que certaines femmes estiment les plus grands, tels que le prêt d'une coiffure un soir de bal, ou la faiseuse de mode à manquer de parole, ou l'adresse d'une tailleuse capable de confectionner une toilette en un jour. Elle fut souple, adroite, persévérante, et s'assidua par des efforts soutenus dans sa confiance et une amitié relative qui la rapprochait de Francis de plus en plus et lui permettait de voir clair dans l'intérieur de ce ménage. À mesure qu'elle faisait dans cette étude des progrès nouveaux, sa santé se raffermissait, l'abattement s'en allait, et la chaleur vie reparaissait dans ses yeux. C'était une autre personne. L'activité avait succédé à la plus incurable nonchalance, l'animation à la curiosité, à la fatigue et au dégoût. Berthe était la première à s'habiller pour le bal et la dernière à s'en retirer. On ne veut pas dire qu'elle ait pris plus de 4 ou 5 bains de mer, et encore, racontait Lucille à M. Cabron, et la voilà guérie. Oh, quelle énigme que ma sœur! Francis n'avait opposé qu'une faible résistance à ces tentatives de rapprochement, bien qu'une certaine réserve, dont Berthe devina la cause bientôt, l'empêcha de s'y livrer tout de suite. Mais on voyait qu'il éprouvait, à la présence et au contact journalier de son ami des anciens jours, la sensation heureuse du voyageur qui se repose sous l'ombre rafraîchissante d'un arbre après une longue marche sur un chemin poudreux. Il n'y eut entre eux ni retour sur le passé, ni échange de confidences. Ils s'abordèrent comme des gens qui se connaissent et ne veulent pas remuer les cendres de leurs souvenirs. Mais Berthe savait, une semaine ou deux après leur première rencontre, que Madame d'Aubrive était une femme vaine, superficielle, à donner au monde et aux prodigalités les plus coûteuses et les plus inutiles, et toute perdue en mille prétentions, que son amour-propre puéril tenait toujours en éveil. Monsieur d'Aubrive avait échangé une liberté dont il n'avait jamais su bien user contre une chaîne sous le poids de laquelle il succombait. Soit dignité, soit indifférence, soit peut-être aussi le sentiment d'un découragement invétéré, que l'expérience rendait impérissable, il ne se plaignait jamais et s'écartait avec effroi du terrain des épanchements. Si l'on pénétrait jusqu'au fond d'une situation à laquelle il ne voyait pas de remède et dont moralement il était responsable, ce n'était pas son affaire, mais il ne voulait en rien aider à cette découverte. Le désenchantement de la solitude, la crainte de retomber dans les mêmes égarements dont un amour silencieux, sincère, inavoué avait pu seul le tirer, les conseils et les démarches intéressées du directeur de la compagnie dans laquelle il avait jeté sa fortune et qui avait une pupille à marier, un peu l'ennui, un peu aussi ce besoin qu'éprouvent certaines natures de courir au-devant des inquiétudes, l'avait déterminé à épouser Mademoiselle Julie de Mauplat, qui ne trouvait ni belle ni séduisante et dont le caractère ne lui était pas sympathique. Elle ne lui plaisait pas. Sa conversation l'irritait, l'éducation qu'elle avait reçue l'effrayait, les goûts qu'elle faisait voir choquaient ses habitudes et ses instincts. Mais il la rencontrait tous les jours et il lui donna son nom, obéissant à son insu au despotisme de ses courants malsains, qui à certaines heures font ployer les plus fermes convictions et dont la plupart des hommes subissent l'empire illogique et pervers. Ce roman, Berthe le devina tout entier. Elle en vit les traces dans les yeux et sur le visage de Francis. Il avait abandonné le soin de sa vie au hasard, et là, après 2 ans de lutter contre un caractère dont l'indiscipline était le moindre défaut, il se laissait aller à la dérive, comme le pilote d'un esquif désemparé qui se croise les bras et calcule combien d'heures, combien de flots le sépare de l'écueil sur lequel il doit périr. Berthe versa des larmes en pensant à la chute vers laquelle il courait. Par quel chemin ne passerait-il pas avant de tomber? Elle avait pris Julie en horreur et s'attachait à elle cependant avec l'espoir incertain d'arrêter peut-être l'élan de sa course. À leur retour à Paris, une étroite intimité unissait les deux ménages. Croyez-vous, disait Lucile à Monsieur d'Aubrive, que ma sœur était il y a 3 mois en danger de mourir? Elle va à Dieppe et la voilà sauvée. Embrasse-moi, pauvre eau qui dort. Elle était charmée d'ailleurs d'avoir renouvelé connaissance avec leur voisin de la Marelle. Elle ne s'était jamais bien expliqué pourquoi on ne l'avait plus aperçue. Mais son bon cœur la poussait à pardonner les caprices, et, ajoutait-elle, parce qu'un vieil ami se marie, c'est pas une raison pour cesser de le voir. Elle lui avait donc ouvert à deux battants les portes de son hôtel de la Grande Rue Verte. Cette intimité qui avait rendu la vie à Berthe ne devait point être de longue durée. Un retour violent de Julie, que des propos de salon instruisirent des assiduités de son mari chez M. des Tournelles avant qu'il l'eût épousée, et qui déclara un matin, avec un accent âpre dont elle n'était pas économe, qu'elle ne voulait pas plus longtemps se prêter à ce jeu de dupe. Puis enfin une catastrophe brisèrent Berthe comme un fil tranché par le couteau. Un soir, M. Claveron entra chez sa femme, le visage décomposé. Son aspect avait quelque chose de si effrayant qu'elle se leva. « Je suis ruiné, » dit-il, avant qu'il eût ouvert la bouche pour l'interroger. La première crainte de Berthe avait été pour ses enfants. Rassurée de ce côté, elle insista doucement mais avec autorité pour savoir tous les détails de ce malheur dont elle voulait mesurer l'étendue. Monsieur Claveron lui apprit alors qu'un certain vicomte dont il avait fait la connaissance aux courses et qui se mêlait d'affaires lui avait emprunté une forte somme qu'il n'avait pas pu rembourser à l'échéance. Pour sauver cette première somme, Félix en avait prêté d'autres dont le chiffre allait toujours en grossissant. Et sous prétexte de chercher des ressources en Angleterre, le vicomte avait disparu. Les traites qu'il devait envoyer pour faire face à un paiement considérable n'étaient pas arrivées, et la maison de banque Félix Claveron et compagnie n'avait plus qu'à convoquer ses créanciers. Le chiffre du passif était tel qu'en réunissant toutes ses ressources, Félix ne parviendrait pas à les combler. De l'interrogatoire qu'elle lui fit subir et auquel M. Claveron se prêta avec l'accablement d'un homme vaincu, il résulta pour Berthe la conviction que son mari avait été la dupe d'un fripon qu'il avait adroitement caressé dans sa vanité et que ses affaires avaient été conduites avec autant de désordre que d'incapacité. Pour la première fois et après un entretien de 2 heures, elle vit face à face l'incapacité réelle de l'homme à qui sa vie était liée. Pour la première fois aussi, elle se reprocha amèrement de n'avoir pas étudié. Ce travail que la jeune fille et jusqu'à un certain degré l'épouse pouvait négliger, n'était-il pas le devoir de la mère? Qu'elle ne s'en fût pas préoccupée alors qu'il s'agissait d'elle seulement, cela se concevait, elle n'attendait plus rien de la vie. Mais comment ne s'était-elle pas appliquée à se rendre maîtresse de Félix dans la rigoureuse acception du mot et pour le bonheur de ses enfants? C'est ce qu'elle se demandait avec douleur. Sa conscience, réveillée en sursaut, lui adressait de vifs reproches. Elle força son mari à se démasquer. Ce vernis brillant qui trompait dans le monde, cette assurance qui se montrait pleine d'audace dans les occasions faciles de la vie, cet air de suffisance tempéré par une politesse si douce et si sûre d'elle-même, ce grand contentement de soi que justifiait de longs succès, tout avait disparu. Le magnifique tournesol orgueilleusement épanoui sur sa tige était par terre, souillé de fange et de poussière. Berthe en eut pitié. Elle comprit quel langage il fallait tenir à cette nature vaniteuse et molle pour la relever et lui rendre un peu de confiance. Si elle ne s'intéressait pas extraordinairement à l'homme qu'elle voyait si faible et si dépourvu de toute qualité virile, il fallait sauver la famille. C'était encore une tâche et non pas la moindre difficile à remplir. Elle s'y dévoua tout entière et tout de suite. « Pourquoi vous désespérez ?» dit-elle. « N'avez-vous pas eu la bonne pensée d'exiger, au moment où nous sommes mariés, que tout le bien qui me revenait du côté de ma mère fût placé sous le régime total? Cela nous assure de quoi vivre. Nous vendrons cet hôtel qui occupe des terres inconsidérables, dont la spéculation vous offrira un bon prix. Vous-même en aviez eu l'idée l'an dernier. » Cette vente vous donnera les moyens de satisfaire nos créanciers les plus exigeants. La chose faite, nous retirons à la Marelle. Vous attendrez une bonne occasion de rentrer dans les affaires. N'êtes-vous pas toujours l'homme que j'ai vu plein de ressources et d'idées? À combien de tempêtes n'avez-vous pas résisté auprès desquels celle qui nous frappe aujourd'hui n'est qu'une bourrasque, là où l'on n'a point de reproche à s'adresser et où le hasard a tout fait. L'homme doit relever le front bravement et tenir tête à l'orage. En somme, pensez-y. Vous n'avez perdu ni votre nom, ni votre expérience, ni votre entente des affaires. Avec un pareil capital, il n'y a pas de naufrage. » À mesure que Berthe parlait, le front de M. Claveron se rassérénait. Quand il eut fini, il passa la main dans ses cheveux, puis renflant sa poitrine, « Vous avez raison, dit-il. On verra bien que Félix Claveron est toujours Félix Claveron. » Le pauvre banquier se coucha à demi consolé, mais l'épreuve était faite. Berthe ne voulut plus demeurer étrangère aux affaires de la maison. Cette influence qu'elle avait acquise, elle l'employa tout entière à sauver quelques parcelles de la fortune engloutie et surtout à maintenir son mari au niveau de la situation difficile où il allait se trouver. Ce financier qui ne comptait pas la veille craignait à présent de manquer de pain. Il y avait des heures dont la pensée de l'avenir l'épouvantait. Quand un créancier s'était montré récalcitrant et s'obstinait à ne pas accepter les offres que Félix lui faisait, il prenait le soir ses enfants sur les genoux et les embrassait avec une sorte d'anéantissement. « Ah, pauvre petit !» murmurait-il. Ce cri faisait mal à Berthe. Point d'énergie, point de volonté, point de ressort, point de spontanéité chez le compagnon de sa vie. Toutes les cordes de cet instrument sonore et creux étaient brisées. Il n'y avait plus à hésiter. Berthe prit en main la direction des choses importantes. Avec ce sens droit et clair que certaines femmes apportent dans la pratique des affaires, elle dirigea la correspondance et le travail de son mari, lui indiquant les points sur lesquels il devait insister et lui dictant les termes des transactions auxquelles il était de son intérêt de consentir. Elle fut le guide, le conseiller de sa liquidation. Mais, toujours délicate, elle eut cet art profond de sauver l'amour-propre de Félix et de lui laisser croire que tout ce qu'il faisait à l'instigation de sa femme, c'était lui qui l'avait décidé. Quand il causait le soir, elle avait pour lui faire adopter ses idées une souplesse admirable d'expression auquel il se prenait chaque fois comme un oiseau de la glu. Tantôt, elle émettait une opinion sous forme de problème à résoudre, il lui en indiquait la solution, comme une chose qu'il avait résolue d'avance. D'autres fois, elle lui demandait, d'un air tranquille, s'il ne se souvenait pas d'avoir décidé qu'une démarche au sujet de laquelle ils avaient discuté la veille devait être tentée dans la journée. Il y avait des heures où elle feignait de combattre une idée qu'elle avait d'abord suggérée, pour lui bien donner, en cédant à propos, la conviction que seul il l'avait trouvée. Et pour lui ôter cette terreur puérile que le repos matériel était compromis, elle vendit à son insu tous ses diamants, se confia au joaillier de la famille pour avoir des parures identiques en pierre fausse, et fit voir à Félix un gros paquet de billets de banque. « Ils sont à moi, dit-elle, et voilà votre vie, tous assurés pour 2 ans. » Félix ouvrit de grands yeux et lui demanda d'où provenaient de si grosses sommes. « Mais de votre caisse, répondit-elle en riant. Du temps que vous me fassiez épuiser, je vous ai un peu volé pour qu'une fantaisie ne me prît jamais au dépourvu. »« Oh, les femmes, murmura Félix, elles oublient tout si ce n'est les chiffons. » Dès qu'elle eut vent de la catastrophe qui menaçait M. Claveron, Lucile accourut chez sa sœur, pleura beaucoup et lui offrit de bon cœur la moitié de sa fortune. « Ne t'inquiète pas de mon mari, lui dit-elle, Gaston fera tout ce que je voudrais. S'il ne te convient pas que je lui en parle, il n'en saura rien. Nous partageons les dépenses de la maison en partie égale et j'administre ce qui me reste comme il me plaît. Ne te gêne donc pas. » Tout cela fut dit avec une sincère effusion au milieu des larmes les plus abondantes et de 1000 baisers. Berthe remercia sa sœur, l'embrassa et la rassura de son mieux. Elle n'avait besoin de rien pour le moment. Plus tard, elle userait peut-être de sa bonne volonté. La tranquillité de Berthe agit sur Lucille. Elle essuya ses yeux, rit beaucoup un peu après de l'avoir en simple robe de soie noire toute unie, écouta ses projets de se retirer un temps à la campagne et battit des mains à l'idée de la rejoindre et de vivre avec elle dans un chalet. « Prends garde, reprit Berthe, ce chalet, c'est la Marelle qui a de grandes murailles et des fossés pleins d'eau tout autour. » « Eh bien, répondit Lucile, nous la déserterons pour habiter une chaumière que je ferai bâtir. » Elle rentra chez elle, convaincue que le malheur n'était pas aussi grand qu'on lui avait dit, et que tout s'arrangerait.